Vous écoutez
RMC.
Salut toutes et tous, les bienvenus. Vous êtes sur RMC et RMC Story. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal, c'est avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. En registre de condoléances mis à disposition des fans de Brigitte Bardot dès ce matin à la mairie de Saint-Tropez. À un peu plus d'une semaine de ses obsèques, ce sera mercredi prochain au cimetière marin. Une loi contre les mauvais payeurs au bénéfice des PME de plus en plus fragiles. Ambition du gouvernement et un moment très attendu par les familles du vol MH370. Les recherches vont reprendre ce matin, 11 ans après la disparition de l'appareil en mer.
Brigitte Bardot, inhumée en toute intimité la semaine prochaine à Saint-Tropez.
Ce sera mercredi au cimetière marin de la cité varoise après une cérémonie privée sur invitation retransmise sur écran géant. Ses admirateurs pourront ensuite se retrouver pour un hommage populaire organisé par la ville, moment de recueillement attendu par de nombreux Tropéziens rencontrés par Pierre Borges.
Nicolas est venu se recueillir auprès de la statue de Brigitte Bardot et pour lui, cet hommage est primordial.
Qui est un hommage sur Saint-Tropez, c'est fondamental. Elle est Saint-Tropez, elle incarne les 60 dernières années. Donc Saint-Tropez lui doit beaucoup. Et donc voilà, un hommage simple, mais chaleureux, c'est très bien.
Il essaiera d'être présent la semaine prochaine. Il suivra la cérémonie depuis l'extérieur de l'église sur deux grands écrans installés pour l'occasion, tout comme Marie-Élisabeth qui ne voulait absolument pas rater ça.
Et je suis contente de rentrer aujourd'hui parce que autrement je l'aurais raté. C'est un bel hommage. Pour moi, c'est un bel hommage.
Brigitte Bardot sera ensuite inhumée dans la plus stricte intimité au cimetière marin de Saint-Tropez. Une demande que comprend cette habitante.
C'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite être dans l'intimité, donc il faut respecter sa tranquillité.
Un hommage sobre qui ressemble à la star pour la plupart des Tropéziens, mais pour Estelle, c'est peut-être trop sobre.
C'est un peu faible. Pour moi, oui, c'est l'icône du siècle. Je pense qu'elle méritait un très grand hommage.
À partir d'aujourd'hui, il sera aussi possible de laisser un mot dans un registre de condoléances à la mairie.
Et se pose désormais la question d'un hommage national. La question divise la classe politique. Les avis sont partagés. Pas de réponse de l'Élysée à 7h. Il est 7h de vous écouter RMC. Moins 6 degrés en ressenti attendu du côté de Lyon. Le plan grand froid a été activé, étendu à tout le département du Rhône. C'est le cas aussi en Moselle avec l'entrée en vigueur de ce dispositif visant à protéger les sans-abri dès 8h ce matin. Le froid qui pourrait être à l'origine de la mort d'un SDF hier à Paris. Un homme de 72 ans retrouvé sans vie dans le 17e arrondissement. De la capitale, une autopsie doit confirmer l'origine de son décès.
Comment répondre à la fragilité des PME, les petites et moyennes entreprises? Le ministre des PME a une idée.
Serge Papin veut faire la chasse aux mauvais payeurs. Il va soutenir une proposition de loi en ce sens contre le non-respect des délais de paiement qui mettent à mal la trésorerie des petits patrons qui voient d'un bon œil une telle mesure. Reportage à Lyon de notre correspondant Vincent Chevalier.
À la tête de plusieurs boulangeries pour les particuliers, mais aussi pour certaines entreprises comme des restaurants, Christophe Girardet a déjà eu affaire à des mauvais payeurs.
Il y en a un qui ne paye pas, 10 000 euros, c'est quand même pas rien. Multiplié par 2, 3, 4 clients, ça peut faire très très vite des grosses sommes.
Également trésorier de la Confédération des PME du Rhône, il connaît bien les conséquences importantes que peuvent avoir de tels retards.
Si on ne me paye pas en temps et en heure, ça veut dire que moi, ça joue sur ma trésorerie et que je ne peux pas payer, encore une fois, mes salariés, mes fournisseurs, mon électricité, mon URSSAF, j'en passe, c'est des meilleurs.
Le ministre veut durcir les sanctions contre les mauvais payeurs, mais peu d'entreprises osent vraiment s'attaquer à un client, selon René Coirot, patron et président de la Fédération des travaux publics dans la région.
Non, c'est compliqué, d'autant que ça reste nos clients principaux, donc c'est pas facile d'attaquer nos clients. On attend quelque chose de l'État pour vraiment régler ce problème-là, mais ça devient urgent pour les paiements, en tout cas. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, ça serait d'être payé, de nous payer les intérêts moratoires automatiquement, ça serait déjà une belle avancée.
Malgré sa complexité administrative, la généralisation de la facturation électronique à partir de septembre 2026 pourrait déjà permettre de résoudre certains conflits.
Regain de tension entre Kiev et Moscou à l'heure où les discussions de paix semblaient aller dans le bon sens. Volodymyr Zelensky a démenti avoir ciblé l'une des résidences de Vladimir Poutine. Accusation du Kremlin qui dit avoir intercepté une centaine de drones. Colère de Donald Trump, convaincu de la véracité des faits rapportés au président américain par Vladimir Poutine en personne. Grégoire Morelli.
C'est la résidence d'été de Vladimir Poutine dans la région de Novgorod, à près de 2000 km de la frontière ukrainienne, qui aurait été visée par ces drones. Mais pour le général François Chauvency, expert des questions de défense, rien ne prouve que l'Ukraine est à l'origine de cette attaque, ni qu'elle a vraiment eu lieu.
Tant qu'on n'a pas d'image, tant qu'on n'a pas de traces
il faut regarder ça avec circonspection. Si elle est fausse, ou même si elle est vraie, cette attaque, elle permet à la Russie de se dire, nous ne suivons pas actuellement le processus de négociation tel qu'il est conçu. Ça a aussi pour effet d'influencer Donald Trump.
Donald Trump qui a vivement condamné cette attaque malgré l'absence de preuves de la Russie. Pour Ulrich Bouna, analyste géopolitique, cela illustre le crédit que donne le président américain aux propos de Vladimir Poutine.
Il est relativement frappant que Donald Trump ait repris un peu le narratif russe. Et donc ça indique que ce que dit Vladimir Poutine à Donald Trump, de façon générale, imprègne en quelque sorte Donald Trump. Il aurait pu s'adresser à ses services de renseignement avant d'en parler ou dire tout simplement « je vais me renseigner ».
L'Ukraine, de son côté, dénonce des déclarations dangereuses et accuse la Russie de vouloir saper les efforts diplomatiques en cours entre Kiev et Washington.
Donald Trump, qui a reçu Benjamin Netanyahou hier dans sa résidence de Mar-a-Lago, est le président américain de menacer le Hamas, qui paiera, je cite, le prix fort s'il ne se désarme pas rapidement dans le cadre de la deuxième phase de l'accord du plan de paix pour Gaza.
Un espoir à présent, celui des familles endeuillées des victimes du vol MH370 de la Malaysia Airlines.
Souvenez-vous, cet appareil censé relier Kuala Lumpur à Pékin, disparu des radars au-dessus de l'océan Indien en mars 2014. À son bord, 239 personnes, parmi eux 4 Français. Depuis, rien, aucune trace, pas de corps, pas de débris. 11 ans plus tard, Lou Garnier, les recherches vont débuter à nouveau ce matin.
Pendant 55 jours, l'entreprise Océan Infinity va passer au peigne fin 15 000 km² de fonds marins, l'équivalent de l'Île-de-France, au sud-est de l'océan Indien pour trouver des restes de l'avion. En 11 ans, c'est la quatrième campagne de recherche, mais jamais le matériel utilisé n'avait été aussi performant, selon Patrick Blély. Il est pilote à la retraite et suit l'affaire depuis 2014.
La qualité du bateau est vraiment top aujourd'hui, c'est ce qui se fait de mieux. Équipé de 3 sous-marins, ça ressemble à des grosses torpilles orange. On peut descendre jusqu'à 6 mm, on peut le piloter sous l'eau, c'est autonome, ça a 100 heures d'autonomie. Et 2 robots qui pourront à la limite même descendre, chercher des éléments aux bottes noires ou autre.
Surtout, la zone a été réduite par rapport aux précédentes campagnes. Alors pour lui, c'est un peu la recherche de la dernière chance.
Les points ont été améliorés, les calculs, les zones qui ont été précisées. Si on n'a pas trouvé là, après il faudrait fouiller tout le sud de l'océan Indien et là... Donc voilà, on a espoir que cette fois-ci, ce soit la bonne.
Et l'entreprise n'en est pas à son coup d'essai. En 2019, c'est elle qui a retrouvé la Minerve, un sous-marin français disparu en 1968 au large de Toulon.
Elle pourrait bien gâcher votre réveillon. L'épidémie de grippe, le pic pourrait être atteint dans la semaine au risque de surcharger un peu plus des hôpitaux déjà au bord de la rupture. Justement, le réveillon, occasion pour beaucoup de fêter une fin d'année. Morose, 2025 n'a pas été bonne pour le pays, selon 85% des Français interrogés dans un sondage Ipsos pour Ouest-France mené dans 30 pays. Les Français sont les plus pessimistes et pas forcément optimistes pour l'année à venir. Les détails de cette enquête à retrouver dans le journal de 7h30.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est que les Français sont pessimistes pour la France, mais optimistes pour eux-mêmes et leur famille. Venez nous parler de, est-ce que vous êtes pessimiste pour 2026? On va le dire clairement, a priori, on fait partie des plus pessimistes au monde. Je vous attends au 32-16 ce matin. N'hésitez pas, un passage à la nouvelle année que certains passeront dehors.
Des festivités sous haute sécurité. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, réclame fermeté et réactivité aux préfets du pays. Ce sera le cas notamment à Paris, Pierre Bazin.
Absolument, raison pour laquelle 10 000 policiers, gendarmes et militaires de la force Sentinelle seront mobilisés à Paris pour protéger les sites majeurs, le Trocadéro, la Tour Eiffel ou encore les Champs-Élysées. Le nombre d'effectifs sur le terrain est identique à la précédente Saint-Sylvestre puisque cette année encore, le risque terroriste est pris très au sérieux par les autorités. Elles redoutent également des mouvements de foule. On ne s'attend pas à beaucoup plus d'incidents que l'année dernière, mais c'est déjà trop, précise le ministre de l'Intérieur, qui fera d'ailleurs interdire, comme chaque année, les engins pyrotechniques. Les autorités redoutent également que des célébrations liées aux matchs de la Coupe d'Afrique des Nations qui ont lieu le 31 décembre également soient source de troubles à l'ordre public et viennent perturber le passage à la nouvelle année.
140 000 euros au butin d'un coffre-fort dérobé à la caserne des pompiers d'hier dans le Var, cambriolé des chèques et des espèces obtenus dans le cadre de la vente de calendriers. Une enquête a été ouverte.
Le soulagement pour le Maroc, qualifié en huitième de finale de sa Coupe d'Afrique des Nations.
Vainqueur 3-0 hier face à la Zambie, les Lions de l'Atlas terminent premier de leur groupe, sur saut d'orgueil pour des Marocains chahutés depuis le début de la compétition par leurs supporters, Valentin Jamin.
Oui, fini les sifflets et les reproches. Hier à Rabat, les supporters marocains ovationnent leur équipe après une victoire nette, méritée, saluée par l'attaquant Elias Ben Seguir.
C'est simplement qu'on a appliqué les consignes, ce qui n'était pas chose faite les matchs précédents, et avec un peu plus d'envie. Je pense le sursaut d'orgueil du fait des critiques. On est une équipe assez confiante, on sait de quoi on est capable, on est conscient de nos qualités.
Et on les a vus avec 3 buts, dont un retourné acrobatique et le retour d'Achraf Hakimi, le défenseur du PSG, blessé jusqu'ici. Malgré la pression, ce Maroc a enfin emballé un match et le sélectionneur Walid Regragui, critiqué avant la rencontre, est satisfait au micro du diffuseur beIN Sport.
C'est ce qu'on voulait, on a toujours dit qu'il faut monter en puissance. On a fait un match complet, le plus important c'est les 3 points comme j'ai dit, c'est de finir premier du groupe. Et maintenant il y a une nouvelle compétition qui commence, on va avoir besoin de ce public pour nous pousser parce qu'il n'y a pas de match facile.
Le Maroc affrontera un 3e de groupe, adversaire normalement abordable dimanche.
L'Afrique du Sud et le Mali se qualifient également. La Tunisie tentera de les rejoindre face à la Tanzanie. 17h ce mardi, idem pour le Sénégal opposé au Bénin. À 20h, la CAN, c'est à vivre sur RMC, Mathieu.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal de 7h. On file au 32-16, retrouvez Jean-Claude. Je vous attendais presque, Jean-Claude, ce matin. Comment allez-vous?
Bonjour, ça va.
Ah, quand j'ai parlé des prix à la pompe, vous savez qu'en écrivant, je me disais, on aura peut-être Jean-Claude à Perpignan. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes gérant de station-service. On a les prix les plus bas depuis 4 ans, alors même plus pour le diesel, si je retrouve mes chiffres. Mais on a des prix exceptionnellement bas. Vous le constatez, c'est le cas chez vous aussi, Jean-Claude?
Oui, c'est le cas aussi. Mais bon, quand j'entends tout à l'heure la personne de Mobilance qui nous raconte un petit violon sur les prix du carburant, je vous ai appelé parce que ça m'a fait bondir. Alors, il faut savoir une chose, c'est que moi, depuis des années, je gagne toujours 8 centimes au litre, d'accord. Mm-hmm. Il a dit que le prix baissait puisqu'il y avait...
Pardon Jean-Claude, je vous coupe. Vos 8 centimes, c'est que le litre soit à 1,50 ou à 1,80, c'est pareil, quoi.
C'est exactement pareil, qu'il soit à 1 euro ou à 2 euros, je gagne toujours 8 centimes, moi.
Okay.
Brut, parce qu'avec ça, faut que je paye mes employés, faut que je paye mes charges et tout ça. D'accord. Par contre, juste, si vous vous amusez à aller sur Internet, vous allez vous regarder le chiffre d'affaires de Total. Total, sur le dernier trimestre, a baissé, en effet, au niveau du litrage, puisqu'ils ont, au lieu de faire 52 milliards comme en 2024, ils n'ont fait que 48. Okay. Mmh. Par contre, leur bénéfice, il a augmenté de 59%. Ils avaient fait 2,336 milliards sur le troisième trimestre 2024. Ils ont fait 3,76 milliards sur le troisième trimestre 2025. Je pense qu'il faut retrouver l'erreur. En réalité, c'est pas l'opération. Alors, il y a au mois d'août, le baril était à 70 euros, parce que on parle en euros, on est en Brent, nous, hein. Aujourd'hui, il est à 52, d'accord?
Ouais.
Il y a $20 de moins au baril, et un baril fait entre 120 et 140 litres à peu près, ok? Et à la pompe, par contre, ça n'a pas baissé d'autant. Ça n'a pas baissé autant. Donc je comprends que Total, et il n'y a pas que Total, hein, si vous prenez BP, si vous prenez tout ça.
Il y en a qui en profitent au passage, c'est-à-dire que ça baisse à la pompe pour l'automobiliste, mais ça pourrait baisser un peu mieux, c'est ce que vous dites, Jean-Claude, d'autant qu'on va expliquer ce matin, vous allez rester à l'écoute, que ça va augmenter à partir du mois de janvier, parce qu'il y a une forme de taxe déguisée. On est censé, avec les énergéticiens, financer la transition écologique. Ça implique de répercuter finalement ce prix à la pompe. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, quoi. C'est pas cher en ce moment le carburant, mais ça va réaugmenter au mois de janvier. Jean-Claude, merci de votre vigilance et de votre appel au 32-16. On continue d'en parler. D'ailleurs, vous réagissez nombreux ce matin sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Ouais, vous êtes déjà en train de nous faire un petit listing des endroits où c'est le moins cher, entre Douai et Lille, entre 1,52€ et 1,56€, 1,48€ en Loire-Atlantique, 1,29€ à La Réunion, on nous écoute aussi depuis La Réunion, c'est 1,29€, et à Dax, dans les Landes, 1,40€ samedi dernier. Voilà ce qu'on
C'est
sur
pas mal, 1,40€, c'est pas mal. Dites-nous aussi, voilà, samplon, diesel, où est-ce que vous le payez le moins cher? On en profite, c'est les fêtes, hein, on a fait quelques dépenses, on a un peu de route pour certains à la fin de la semaine, mais ça va réaugmenter au mois de janvier. On en parle ce matin avec vous 32-16. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et sur tous les sujets qu'on propose dans l'actualité, vous réagissez, notamment sur le WhatsApp que vous surveillez, Martin Bourdin.
Exactement, vous réagissez beaucoup, notamment à ce sondage qu'on a ce matin. Les Français estiment à 85% que cet été a été mauvaise pour le pays. On n'est pas forcément optimiste non plus pour l'année qui arrive. Il faut être optimiste, nous écrit Sophie sur WhatsApp, sinon moi je dégringole, je suis fatigué de la situation, je n'arrive plus par exemple à payer l'électricité. Mais on garde quand même la positive attitude, coûte que coûte, il le faut, nous écrit Sophie. Jean-Rémy, lui, nous dit qu'on devrait parler de réalisme plutôt que de pessimiste. Comment être optimiste en ce moment? Est-ce qu'on doit faire semblant que tout va bien? C'est pour ça que j'aime encore les Français, nous écrit Jean-Rémy sur WhatsApp. Nous ne sommes pas encore totalement résignés. Et puis on a Mickaël qui nous écrit, lui, depuis le Vietnam. Tiens, vu sur les montagnes, un Bouddha géant, voilà ce qu'il nous écrit sur WhatsApp. Je crée mon optimisme ici avant de revenir en France le 3 janvier. Il faut vouloir être heureux. Et vous, est-ce que vous estimez qu'on est trop pessimiste en France, trop râleur? Est-ce que c'est votre avis? Vous nous le dites au 3216 et sur WhatsApp 0612 424 424.
Des policiers ont braqué leur arme ce week-end sur un agriculteur à Auch lors d'une manifestation tout à fait dans les règles selon les autorités, tout à fait disproportionnée selon les syndicats agricoles. Bonjour Lionel Candelon.
Oui, bonjour.
Vous êtes président de la Chambre d'agriculture du Gers, membre de la coordination rurale. Selon vous, les agriculteurs ne doivent pas être traités comme des délinquants. C'est votre parti pris dans une minute sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h17 sur RMC et RMC Story. Des images qui ont pu choquer ce week-end à Auch, dans le Gers. Des policiers qui braquent leurs armes sur un agriculteur qui, lui, est au volant de son tracteur lors d'une mobilisation. Alors, les autorités parlent d'une situation dangereuse. Les agriculteurs dénoncent une réponse disproportionnée. Les agriculteurs ne doivent pas être traités comme des délinquants. C'est votre parti pris. Lionel Candelon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes président, je le disais, de la Chambre d'agriculture du Gers, membre vous-même de la coordination rurale. Alors samedi, la coordination rurale menait une action coup de poing, hein, une trentaine d'exploitants, cinq engins, des agriculteurs qui ont notamment déversé du lisier sur une agence de la Dépêche du Midi. 22h30, la situation se tend, plusieurs agents de police braquent leurs armes sur un agriculteur au volant du tracteur pour qu'il arrête son véhicule. C'est cette scène qui vous a tous choqué.
Oui, c'était lunaire, hein, totalement. On a trois agents de police, alors deux CRS et un commissaire divisionnaire, je le rappelle, qui, au moment où le tracteur commence à braquer les roues pour se repositionner sur la route et dégager une voie pour éventuellement un véhicule de secours, sortent leurs armes de poing simultanément, dont une qui est sortie et qui est maintenue avec une radio, donc c'est-à-dire que les mains sont totalement pleines d'objets. Si jamais la radio glisse ou quoi que ce soit, le coup de feu peut partir. L'agriculteur qui est juste au volant de son tracteur se retrouve braqué alors qu'il ne fait pas, il n'avance pas vers les forces de l'ordre en les menaçant de les écraser.
Alors,
ou de quoi que ce soit.
Je vais vous agacer, Lionel Candelon, mais pour ne pas être traité comme des délinquants, il faut peut-être pas se comporter comme un délinquant. Quand vous avez un policier qui vous dit d'arrêter le tracteur et de descendre, bah vous arrêtez le tracteur, vous descendez, vous entreprenez pas une manœuvre.
Alors quand vous êtes dans une cabine de tracteur déjà et que vous êtes trois personnes dans la cabine de tracteur, que le policier est à 15 mètres avec un moteur allumé et avec des lampes aveuglantes vers vous, vous entendez pas forcément les sommations. Un policier s'est dirigé vers la cabine, la portière a été ouverte et il y avait déjà une discussion avec un policier. Le policier lui disait coupe le moteur et l'agriculteur était en train de lui expliquer en même temps qu'il tournait juste les roues, qu'il n'avançait pas, qu'il tournait les roues.
Les deux versions s'opposent, et je vais le dire pour nos auditeurs, sur la vidéo c'est dur à dire, on va pas faire l'enquête à la place des enquêteurs, mais la police a constaté que le tracteur avançait en direction des forces de l'ordre, ils se sont sentis en danger côté agriculteur, on explique qu'il tournait juste les roues, en l'occurrence, ce qui peut être impressionnant, une roue de tracteur, bon pourquoi pas. Selon le ministère de l'Intérieur, l'intervention s'est faite dans le respect du cadre légal, idem pour les autorités du département. Comment dire? Vous n'en faites pas un peu beaucoup?
Non, mais on va pas avoir l'État aujourd'hui, par rapport aux manifestations qui se déroulent sur Auch, qui va sanctionner un commissaire divisionnaire qui vient d'arriver sur la ville de Auch. Ça, c'est clair, net et précis. Ça fait 18 jours, 19 jours maintenant qu'on manifeste à Auch, depuis le 12 décembre. On a versé à peu près 600 à 700 bennes, sans rien casser, sans mettre le feu à un bâtiment, sans pulvériser un bâtiment de l'État ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, à un moment donné, on est sur des actions pacifistes, on est sur des actions de colère.
Ce qu'on voit, c'est des tonnes de lisiers déversés devant les préfectures, rédaction de presse aussi, hein, nos collègues, nos confrères de la Dépêche du Midi, devant lesquels vous avez déversé du lisier. Chacun jugera si ça se fait ou pas. Des actions qui parfois dérapent un peu du cadre légal, hein, faut le dire, même si vous dites qu'il n'y a pas de violence, etc. D'autres ont tendance à trouver que les autorités sont plutôt coulantes avec les agriculteurs.
Écoutez, moi j'ai vécu l'Ariège, je pense pas que les autorités étaient coulantes avec les agriculteurs. On a pris un millier de grenades sans sommation, sans rien. On a 3 blessés parmi les agriculteurs de l'Ariège le 11 décembre, je le rappelle. Donc ce qui s'est passé à Auch ce week-end avec une sortie d'armes est totalement inadmissible.
Inadmissible.
Il n'y avait pas mise en danger de la vie des policiers. Il n'y avait pas de tracteur qui fonçait sur un véhicule de police comme ça, ça a pu se passer dans la Vienne il y a quelques jours. On a discuté avec des colonels de gendarmerie qui ont vu les vidéos. On a discuté avec des cadres, des autorités publiques, d'autres départements qui ont vu les vidéos et tous nous disent que la sortie d'armes est totalement illégitime.
Ouais, bah alors est-ce qu'elle était disproportionnée ou pas? Vous avez demandé à ce que l'IGPN soit saisie. Lionel Candelon, on en est où d'un mot de ça?
Ah mais nous, on va saisir l'IGPN. Je sais que la procureure du parquet de Auch ne veut pas le faire, mais nous, on va le faire, que ce soit par un juge d'instruction ou par une plainte qui sera déposée par notre avocat dès aujourd'hui. Nous demandons à ce que l'IGPN fasse une enquête sur cette action policière. La sortie d'armes à une main avec une radio dans l'autre main, il n'y a pas plus dangereux pour commettre une
radio. Après, ils sont trois, je le redis, hein, ils sont 3 policiers à sortir leur arme en même temps. J'ai pas le protocole exact, mais c'est pas le geste d'un policier qui fait du zèle dans son cou. Ils sont 3 à avoir le même geste en même temps. Clairement, ils se sont sentis menacés, Lionel Candelon.
Ceux qui sortent leur arme juste après le commissaire divisionnaire, effectivement, on parle quand même de 3 armes 9 mm braquées sur quelqu'un qui est au volant de son tracteur. C'est pas une BMW qui a fait 2 refus d'obtempérer et qui continue à rouler sur les gendarmes.
Voilà. Hein. Et Lionel Candelon, vous disiez le tracteur ne fonçait pas. Personne ne dit qu'il fonçait, il disait qu'il avançait. On suivra justement votre saisie de l'IGPN et la suite de l'enquête s'il y a. Merci Lionel Candelon, président de la Chambre d'agriculture du Gers, membre vous-même de la coordination rurale, alors que les mobilisations se poursuivent, notamment aujourd'hui en Haute-Garonne. On en parle dans les journaux d'RMC ce matin, bien entendu. Il est 7h22. Et dans un instant, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, avec le retour en force d'un mythe français, la mobilette. Je vous attends au 32-16 ce matin sur tous les sujets de l'actualité qui font débat. Ne bougez pas, on se retrouve dans un peu plus de 60 secondes. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. Ah oui.
Il est 7h23 sur RMC, RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité, c'est tous les jours. C'est avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Ce matin, Arthur, on reprend le guidon de la mobilette.
Arthur, vous connaissez ce son ? C'est les mythiques mobilettes qui sont de retour. Un industriel de Châteauroux a racheté la marque et s'apprête à lancer 2 nouveaux modèles. Pour vous, ça va cartonner.
Oui, Apolline, cet industriel de Châteauroux a racheté la marque il y a 6 mois pour 600 € seulement. Hein. Des mobilettes qui rouleront désormais à l'électrique. Le premier modèle roulera jusqu'à 45 km/h. Une nouvelle réjouissante parce qu'on l'a oublié, mais la mobilette, c'est une invention française.
C'était quand ?
Alors, ce matin, Apolline, on roule en direction des années 1920 et on s'arrête en banlieue parisienne, dans la ville de Pantin, où, en 1923, 3 ingénieurs fondent une entreprise qui s'appelle Motobécane. Ils lancent des modèles de motos très simples à manier. Ça marche, la marque prospère en Europe, mais elle fabrique aussi des vélos. Et justement, un jour, un de leurs ingénieurs hollandais, forcément, la Hollande c'est le pays du vélo, a une idée, mettre un moteur sur un vélo. La mobilette est née, nous sommes en 1949.
Ça va marcher tout de suite ?
C'est le moins qu'on puisse dire, hein. La mobilette devient le moyen de locomotion de la classe ouvrière. Facile à conduire, facile à manier, facile à transporter, pas cher. En plus, à l'époque, la voiture, c'est encore un produit de luxe. Hein, donc la mobilette comble un manque. En 1958, la marque Motobécane sort son modèle star, la V88. On la surnomme la bleue, c'était sa couleur, une mobilette bleue. Ça sera la mobilette la plus vendue au monde, 15 millions de modèles vendus quand même. Hein. Une statistique, une autre. Dans les années 60, l'usine Motobécane dans la ville de Saint-Quentin produit une mobilette toutes les 7 secondes.
Hein. Et la mobilette, ça va devenir un phénomène de société.
Et oui, Apolline, ce qui était un moyen de locomotion pour les ouvriers va devenir un objet tendance, hein, et surtout un symbole de liberté et de légèreté. Même les stars s'y mettent. Hein. Dans les années 70, la princesse de Monaco, Caroline, arpente la principauté en mobilette. En 77, le chanteur Renaud sort son 2e album et en couverture, évidemment, il pose assis sur une mobilette.
Évidemment.
Alors, il y avait d'autres marques de vélomoteurs qui cartonnaient, hein, comme le Solex. Brigitte Bardot roulait en Solex. Charles Aznavour roulait en Solex et je crois savoir que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus récemment, une certaine Apolline de Malherbe roulait.
C'était mon bonheur, le Solex. J'ai eu un Solex qui a fini par mourir et je l'ai laissé
tout le monde le
abandonné
sait,
sur le boulevard Saint-Michel, espérant qu'un amoureux du Solex le réparerait. J'espère qu'il m'entend ce matin. Finalement, les mobylettes sont passées de mode.
Et oui, à partir des années 80, la mobylette succombe à la concurrence du scooter, moins brillant, plus stable, plus pratique. Mais quand on y pense, les vélos électriques qui sont partout dans nos villes sont un peu les héritiers de la mobylette. Hein. Le principe est le même, on pédale et ça démarre. L'habitude ne s'est donc pas perdue. Et d'ailleurs, cette entreprise de Châteauroux compte justement concurrencer ce marché avec un nouveau modèle de vélo électrique mobylette.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, que vous retrouvez à tout moment en podcast ou sur l'application RMC. Dans un instant, la météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, nous serons en ligne avec Guylain Vatrolo. Il a perdu sa femme et deux enfants qui étaient à bord du MH370 de la Malaysia Airlines, presque 12 ans après la disparition de l'avion. Des recherches reprennent aujourd'hui dans l'océan Indien. Et puis à 7h40, la chasse aux mauvais payeurs est ouverte par le gouvernement. 20 000 PME qui se retrouvent en grande difficulté financière chaque année à cause de clients qui tardent à payer leurs factures. Notre invité dans 10 minutes, c'est Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris, les petites et moyennes entreprises. A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Élise Dangean est avec nous pour un nouveau journal. Bonjour Élise.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous le disiez, les Français ont le moral dans les chaussettes. 85% d'entre eux estiment que l'année a été mauvaise pour le pays. Et nous sommes, tenez-vous bien, les plus pessimistes au monde avec les Sud-Coréens. Faut-il organiser un hommage national à Brigitte Bardot? C'est ce que réclame une pétition lancée par Éric Ciotti. Alors que les obsèques de l'actrice se tiendront mercredi prochain dans la plus stricte intimité. Et puis enfin, un registre national du camp en France pour mieux traiter et mieux prévenir la maladie.
Et vous, comment ça va cette fin d'année ?
Eh bien, ça va pas fort, manifestement, pour plus de 8 Français sur 10 qui estiment que 2025 aura été un mauvais cru, résultat d'un sondage Ipsos qui nous apprend par ailleurs que l'optimisme n'est pas au rendez-vous pour 2026. C'est bien simple, Victor Girard, on est avec les Sud-Coréens les plus pessimistes au monde.
Très tiré, air blasé, 2026, c'est dans deux jours et Cory ne cache pas son pessimisme.
L'électricité, l'eau, les courses, les salaires baissent, les prix augmentent, les charges augmentent, tout augmente. On peut plus se faire plaisir. Avant, il y avait un peu de champagne, un peu de fruits de mer, mais on peut plus.
Au poids du quotidien s'ajoute l'instabilité politique qui pèse lourd sur les esprits.
Les politiciens n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils me disent que 2026, il n'y aura rien qui va se passer.
Un blocage inquiétant pour Olivier, comme pour 7 Français sur 10, qui redoutent des troubles dans l'espace public dans les mois à venir.
On va arriver à des manifestations un peu virulentes et j'ai peur que ça explose violemment.
À ce climat anxiogène s'ajoutent également les tensions internationales.
Vu les dernières déclarations du chef d'état-major qui disait clairement qu'on soit prêt à perdre nos enfants, et c'est des trucs qui sont vraiment inquiétants. Tout moment, en fait, la guerre peut se déclencher.
Mais tous ne cèdent pas au fatalisme. Sarah, elle, préfère relativiser.
Les Français, en règle générale, sont pessimistes. Ça fait un peu partie de notre culture.
Ce pessimisme est ancré, selon le sociologue Serge Guérin, face aux bouleversements technologiques, politiques ou sociétaux.
On va d'abord voir ce qui va poser problème avant de se dire qu'est-ce que ça va peut-être améliorer pour l'ensemble de la société.
Une façon de voir l'avenir qui rend la France, selon lui, par nature plus pessimiste que ses voisins.
30 décembre. Mais vous allez témoigner, parce qu'à 8h10 tout à l'heure, on va appeler Mathieu Doiré, qui est directeur de recherche à l'Institut Ipsos. Il a réalisé cette étude sur le pessimisme des Français. Mais j'ai envie de vous entendre, vous, vers à moitié plein, vers à moitié vide, quel regard vous portez sur 2026. Et ce qu'on entendait là, est-ce que l'instabilité politique, ça vous pèse tant que ça, les incertitudes sur le budget, sur la suite politique en France? Dites-le nous ce matin au 32-16.
Il est 7h32 sur RMC et on connaît la date des obsèques de Brigitte Bardot qui s'est éteinte dimanche à l'âge de 91 ans. L'actrice sera inhumée mercredi prochain dans le cimetière marin de Saint-Tropez après une cérémonie en l'église Notre-Dame de l'Assomption. Cérémonie en toute intimité, c'est ce que souhaitait l'icône du cinéma français. Et pourtant, une partie de la classe politique réclame qu'un hommage national lui soit rendu, Cyprien Pézril.
Oui, avec même une pétition initiée par Éric Ciotti et son parti, allié du RN, pour réclamer au président qu'un hommage national lui soit rendu. Une cérémonie avec le drapeau tricolore sur le cercueil et qui se déroule le plus souvent aux Invalides. Et c'est bien à Emmanuel Macron que revient le choix d'organiser un hommage Pour l'heure, ça ne semble pas en prendre le chemin. La Fondation Brigitte Bardot assure à RMC n'avoir eu aucun contact avec l'Élysée et des proches de la vedette jurent qu'elle aurait de toute façon détesté ce genre de cérémonie officielle. Quoi qu'il en soit, pas question qu'il y ait un hommage national, dit la gauche. Olivier Faure en tête, les hommages nationaux sont rendus pour service exceptionnel à la nation, défend le patron du PS qui rappelle que Brigitte Bardot avait été condamnée pour propos racistes.
Un pas en avant, deux pas en arrière, alors que Donald Trump disait son optimisme hier pour trouver un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. Moscou accuse désormais Kiev d'avoir voulu cibler l'une des résidences de Vladimir Poutine. Des accusations démenties immédiatement par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
C'est un nouveau mensonge de la Russie. Nous avons eu une réunion avec le président Trump et c'est un échec pour les Russes si nous n'avons pas de scandale avec les États-Unis et si nous progressons. Avec leur déclaration, ils préparent simplement le terrain pour nous frapper, probablement la capitale, probablement des bâtiments publics. Nous avons déjà connu ça en septembre, il y avait eu une frappe de missile sur le cabinet des ministres.
Il est 7h34 sur RMC et c'est une avancée majeure pour les politiques de santé publique. Un registre national des cancers va être créé. Il réunira toutes les données sur les cas qui frappent les Français. Objectif Philippine Boulet, mieux comprendre, mieux guérir et mieux prévenir la maladie.
Oui, des millions de données stockées au même endroit, date du premier dépistage, stade de la maladie, soins administrés, mais aussi la profession ou le lieu de vie du patient dont l'identité est préservée. Aujourd'hui, il existe seulement des données à l'échelle régionale ainsi que celle de l'assurance maladie. Désormais, l'ensemble de ces informations sera centralisé. Un travail titanesque confié à l'Institut National du Cancer. Son président, le professeur Norbert Ifra.
Ce registre va permettre d'améliorer la couverture actuelle des cas de cancer sur le territoire. Aujourd'hui, en fonction des cancers, on a une couverture de 20 à 24%. Les acteurs du soin et de la recherche auront des données fiabilisées à disposition. Ça va aussi permettre d'améliorer la connaissance qu'on a sur les parcours de soins des personnes qui se sont prêtées à un acte de prévention ou carrément des malades en allant jusqu'à l'après-cancer.
Aujourd'hui, seule une poignée de pays dispose d'un registre équivalent comme le Danemark.
En Ligue 1, c'est le retour d'un habitué. Claude Puel a été officiellement intronisé comme entraîneur de l'OGC Nice hier, 9 ans après son départ du club azuréen, Arthur Perrault.
Oui, c'est un retour que personne n'avait vu venir dans un contexte tendu à Nice-Centre. Relation glaciale avec les supporters et 9 défaites sur les 10 derniers matchs. Une mission de 6 mois pour Claude Puel, avec comme objectif principal se maintenir en Ligue 1.
Je viens un peu pour une mission, un challenge qui est très difficile. Et essayer d'inscrire le club dans le futur. Et ça, le faire à travers de choses simples, entre guillemets, se réconcilier avec tous les amoureux de l'OGC Nice.
L'entraîneur de 64 ans retrouve l'équipe qu'il a entraînée entre 2012 et 2016. Une aventure marquée par des tensions avec le président du club, Jean-Pierre Rivère, sur les derniers mois. Pour Claude Puel, cela fait partie du passé.
On s'est recroisé à Monaco. On a parlé pendant un moment. C'était très sympa. Il y a du respect entre deux personnes. Ça n'empêche pas que des fois, il y a des tensions, comme dans n'importe quel couple.
Premier rendez-vous pour le nouvel entraîneur niçois, Claude Puel. Une rencontre à domicile samedi contre Strasbourg, actuel 7e de Ligue 1.
À la Coupe d'Afrique des Nations, le soulagement des Marocains, hôtes de la compétition, est désormais qualifié pour les 8e de finale après leur victoire 3-0 hier face à la Zambie. Également qualifié le Mali et l'Afrique du Sud. Ce soir, c'est le Nigeria, déjà qualifié, qui affrontera l'Ouganda quand les Tunisiens joueront leur place au prochain tour face à la Tanzanie. Et le Sénégal tentera également de décrocher son ticket pour les 8e de finale. Mais pour ça, il faudra battre le Bénin.
Et puis le Quintet, c'est à 13h55 à Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 7, Most Glamorous. L'outsider, c'est le 11, l'Arlib.
Merci beaucoup Élise Dangean, c'était le journal de 7h30. Un nouveau journal à 8h tout à l'heure. Mais tout de suite, on va s'intéresser à ce qui reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Bonjour Guylain Ouattrolo.
Bonjour.
Il y a près de 12 ans, le 8 mars 2014, vous avez perdu votre épouse et deux de vos enfants. Ils étaient à bord du vol MH370 de la Malaysia Airlines. 12 ans après, on n'a toujours pas retrouvé l'épave de cet avion. Et aujourd'hui, de nouvelles recherches reprennent dans l'océan Indien, des recherches à l'aide d'une entreprise privée, Ocean Infinity. Guylain Ouattrolo, ces recherches pour vous, c'est quoi? C'est un nouvel espoir, une énième tentative? Quel regard est-ce que vous portez sur cette opération?
D'abord, je suis très content qu'on en reparle, parce que comme vous dites, ça fait 12 ans que c'est arrivé et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé. On n'a toujours pas de réponse, donc c'est très bien qu'on en reparle. Néanmoins, en ce qui concerne ces recherches-là, je n'y crois pas, parce que, encore une fois, on cherche à l'endroit où l'avion n'est pas tombé, donc on ne trouvera rien. Donc, on est toujours dans la manipulation, dans le je fais semblant de chercher.
Pour vous, on fait semblant de chercher, parce qu'il y a eu, je sais pas, 70 millions d'euros de promis à Ocean Infinity s'ils trouvaient l'épave. Il y a 55 jours d'opération. Il y a des drones qui sont employés, des drones qui vont aller à 4, 5 mètres, je vais y arriver, et qui vont scanner 200 km². Pour vous, c'est du vent, tout ça?
Bah pour moi, on cherche pas au bon endroit, donc oui, c'est du vent, oui, on cherche pas. Bon, Ocean Infinity, d'abord, faut savoir, c'est une société privée qui cherche des trésors, donc ils se font un coup de pub, là, tout d'un coup. Faut savoir qu'ils sont absolument pas transparents, il y a personne sur leur bateau, on sait pas où ils... Des fois, ils se permettent de couper leur communication et on sait pas où ils sont, parce que tout simplement, ils ont trouvé une épave, mais c'est pas l'avion. Donc, c'est des gens qui se font un coup de pub, mais je ne crois pas deux secondes qu'ils trouveront quoi que ce soit là où ils cherchent, puisque l'avion n'est pas tombé là.
Alors l'avion n'est pas tombé là, c'est toute la difficulté. Alors vous connaissez le dossier infiniment mieux que nous tous réunis ici, Guylain Watrelot. La difficulté, c'est qu'on a trouvé des morceaux en Afrique de l'Est, que cet avion il ralliait Kuala Lumpur à Pékin. Vous dites on cherche pas au bon endroit, mais on sait pas vraiment où il faut chercher, non?
Bah, je vais vous dire deux choses. S'il était tombé dans cet endroit-là, cet avion, il aurait traversé 10 espaces aériens différents, d'accord? La Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, Singapour, etc., etc., le Vietnam. Faut savoir qu'aucun de ces pays ne dit avoir vu l'avion. Donc, comment vous expliquez ça, déjà? Donc, il n'est pas passé par là. L'autre chose, c'est effectivement, s'il était tombé dans l'eau là-bas, jamais dans l'histoire de l'aviation, c'est arrivé qu'on ne retrouve pas de débris flottants. On n'a jamais retrouvé de débris flottants. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Pourtant, on a cherché là-bas. Mmh. Etc. Des choses comme ça, je peux vous en donner des dizaines et des dizaines. Ce qu'on veut nous vendre ne tient pas la route deux minutes.
Guylain Watrelot, merci. Hein. J'entends aussi cette espèce d'ambiguïté où vous dites quand même c'est bien qu'on en reparle et qu'on relance des discussions au sujet de ce vol MH370. 12 ans après, on n'a aucune idée d'où il est. Et en même temps, j'entends aussi votre scepticisme. Vous n'attendez pas grand-chose de ces opérations lancées aujourd'hui avec Ocean Infinity, cette entreprise privée de chasseurs de trésors, comme vous le dites, qui part pour 55 jours d'expédition à la recherche de l'avion de la Malaysia Airlines. Merci Guylain Watrelot, il est 7h40.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et on repart tout de suite au 32-16 avec Vincent qui nous appelle du département du Nord. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour.
Comment ça va Vincent?
Bah, ça va et vous? Pour une première, bien.
Moi ça va, c'est votre première avec nous?
Oui.
Ah bah soyez le bienvenu. Vous allez terminer l'année.
C'est un moment, c'est une première, oui.
Écoutez, je suis ravi de vous accueillir Vincent. Faites comme chez vous, vous êtes chauffeur de bus. J'aime bien m'imaginer que je suis dans votre bus avec RMC à fond. Chauffeur de bus, c'est pas des enfants que vous transportez ce matin, ils sont en vacances.
Non, on transporte de toutes sortes de personnes en fait.
De la métropole, tout simplement. Vincent, alors dites-moi, le carburant, vous êtes gasoil ou sans plomb, vous?
Alors nous c'est gasoil, mais après, nous ça se situe entre 1,52 et 1,56. Mais après, je veux réagir par rapport à la personne qui parlait tout à l'heure de Total, qui disait qu'il s'en mettait...
Jean-Claude
Jean-Claude
pompiste à Perpignan, ouais.
Ouais,
gérant de station-service.
En fait, je pense qu'il n'y a pas de Total, parce que nous, chez nous, moi, je me souviens, il y a quelques années en arrière, on allait plutôt vers les magasins, en fait, les grandes surfaces, pour avoir le carburant le moins cher.
Ouais.
Et maintenant, je trouve que ça fait un peu l'effet inverse. Moi, maintenant, personnellement, je me mets mon gasoil, c'est une pompe à essence Total ou Esso, où je trouve qu'ils sont moins chers.
Ah ouais?
Sur quelques centimes, hein, 3 ou 4 centimes, mais ça reste moins cher.
Alors Vincent, moi je suis obligé de vous faire confiance parce que je sais que vous regardez les tarifs avant d'aller faire le plein et on le fait tous, évidemment. Jusqu'à présent, de mon côté, c'est encore les grandes surfaces qui sont moins chères. Mais alors peut-être que vous décrivez autre chose.
Moi je trouve qu'ici, les grandes surfaces, alors après on va dire, j'aime pas citer le nom, mais il y a Leclerc, admettons, qui fait souvent des coups de pub, on va dire, en disant tel jour ou tel week-end, c'est le carburant
Vous allez écouter Thierry Brosse, qui est spécialiste de l'énergie, c'est mon invité à 8h40 tout à l'heure. Précisément, parce que sur ces prix en ce moment, il y a eu des opérations de promo, parce que c'est un produit d'appel pour les grandes surfaces et la grande distribution, évidemment. Vous allez écouter attentivement, parce qu'il y a quand même une mauvaise nouvelle qui se cache derrière tout ça. On se réjouit, vous nous dites où vous le touchez le moins cher, entre un 52 et un 56 dans le Nord pour Vincent. On a un 52 en moyenne sur le gasoil la semaine dernière. Mais la réalité, c'est que ça va augmenter en janvier, et ça, on va en reparler aussi ce matin. Il est 7h42. Merci Vincent, et bienvenue sur RMC. Dans un instant, la chasse aux mauvais payeurs qui est ouverte. C'est le cauchemar de dizaines de milliers de PME en France. Des factures non réglées, enfin surtout payées en retard. Alors le gouvernement veut déplafonner les sanctions pour les mauvais payeurs. Bonjour Bernard Cohen-Haddad.
Bonjour Mathieu Bézard.
Vous êtes président de la CPME Paris et vous allez nous dire si c'est le genre de signal qu'attendent les PME. On va aussi parler de l'activité en cette période de fête et des perspectives pour 2026, cette saison. On se retrouve dans une minute sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h44 et vous êtes sur RMC, RMC Story. Bon réveil. Le ministre du Commerce, Serge Papin, promet de soutenir une proposition de loi qui veut déplafonner les sanctions pour les mauvais payeurs. Chaque année, figurez-vous que 20 000 PME se retrouvent dans la galère chaque année parce qu'elles n'ont sont pas payés à temps. On parle d'un coût quand même de 15 milliards d'euros pour des entreprises qui ne tiennent plus. Bonjour Bernard Cohen-Haddad.
Bonjour.
Vous êtes président de la CPME Paris et vous avez publié « L'avenir appartient aux PME ». C'est chez Duno. On le montre sur RMC Story. Alors, c'est pas la première fois, on le disait hors antenne, pour tout vous dire, pas la première fois qu'on parle de ce sujet des retards de paiement. C'est un fléau pour les petites entreprises. En attendant avant de régler leur facture, les clients se font quoi? De la trésorerie sur le dos des PME?
Bien entendu. Vous savez, c'est un sujet qui remonte à 2008. En 2008, on a voté une loi qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie, où on avait imposé des paiements à 60 jours et à 45 jours fin de mois. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. Et puis en 2008, vous savez Mathieu, vous avez peut-être oublié, c'est le début de la crise économique, les subprimes. Donc on avait à l'époque 165 000 entreprises qui étaient défaillantes. Donc les 13 milliards, à l'époque c'était 13 milliards d'euros qui n'allaient pas dans l'économie directe, c'est-à-dire dans le financement et la trésorerie des PME, aujourd'hui sont passés à 15 à 16 milliards. Vous voyez qu'on a quand même pas mal progressé.
Par contre, moi j'ai un souvenir, puisque vous me demandiez si je me souviens de 2008, je me souviens très bien, on parlait de l'État comme mauvais payeur, de l'État qui tardait à régler ses factures. C'est toujours le cas. Qui sont les mauvais payeurs?
Alors les mauvais payeurs, ce sont d'abord les grandes entreprises qui payent très 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 mal leurs fournisseurs. Et bien entendu, lorsqu'on est une TPE et qu'on a en face de soi un donneur d'ordre qui est une grande entreprise, on a du mal quand même à essayer de lui faire un procès pour récupérer.
Le rapport de force est compliqué.
C'est pour ça qu'on a créé en 2015, moi c'est le combat de ma vie, hein, entre autres. C'est, vous savez, le name and shame, c'est-à-dire comment on annonce des mauvais payeurs et comment, comment dirais-je, on leur fait payer une addition.
Parce que là, vous dites en gros que déplafonner les amendes, la petite entreprise ne peut pas se retourner contre son client, c'est ce que vous êtes en train de dire.
Voilà, c'est l'État aujourd'hui qui fait l'amende. En 2015, c'était SFR, Numéricable, Paul Prédo, enfin je ne veux pas faire de la pub, Airbus aussi, Hélicoptère, qui payait très très mal et qui a eu pour la première fois une amende de 375 000 euros. Aujourd'hui, ce que l'on veut faire le ministre, c'est déplafonner les amendes, ce qui va dans le bonne chose, mais aussi, il faut former et valoriser les bonnes pratiques, parce que si vous formez pas ceux qui payent, comment dirais-je, les entreprises, on aura peut-être des amendes, mais ça réglera pas le problème, parce que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Tout simplement, quand vous êtes une petite boîte, vous avez du mal à mettre en demeure votre fournisseur.
Alors, on parle de 20 000 entreprises fragilisées chaque année, justement par cette question, ce qui m'amène au contexte économique et à la question des défaillances. Entre septembre 2024 et août 2025, 67 613 entreprises en défaillance, c'est 8 000 de plus que la moyenne. 2025, on le dit depuis le début de l'année, hein, mais 2025 sera une année record.
C'est une désolation. C'est une désolation. On a 68 000 défaillances d'entreprises, 250 000 emplois salariés et non salariés qui disparaissent sur l'année 2025. Il y a une révolution dans la relation au travail. Il y a un problème aussi de consommation sur des produits de proximité. Il y a des métiers nouveaux et il y a une difficulté aussi à avoir une embellie, c'est-à-dire un ballon d'air dans les entreprises, trop de charges, difficultés commerciales, des loyers, des assurances. C'est la double peine pour nos entrepreneurs. Je le vis au quotidien avec mes adhérents et avec nos partenaires.
Ce sont toujours les TPE, hein, les très petites entreprises.
Oui, alors le nouveau, justement, où il y a une montée en défaillance, c'est que depuis les trois derniers trimestres, on a la gamme, le segment 50, 100 salariés et au-delà.
Ah, donc des PME de 50 à 100 salariés.
On a plus 9%. De ces boîtes, ça sont les chiffres de la Banque de France,
dans quel secteur ?
Que je tire de mon chapeau. Et donc ça, c'est extrêmement mauvais parce que jusqu'à présent, on pouvait comprendre que les petites entreprises, notamment les moins de 5, étaient beaucoup plus fragiles. Aujourd'hui, la gamme, on est plutôt dans la catégorie plus de 50. Et là, c'est extrêmement dangereux, à la fois en matière humaine, c'était déjà dangereux auparavant, douloureux, mais aussi pour l'emploi.
Et ça doit nous inquiéter pour l'emploi en 2026. Alors, en attendant, le ministre du Commerce parle d'un Noël avec des résultats plutôt bons. Je le cite, pour la consommation. Les Français ont ouvert leur corps et leur porte-monnaie, le signe d'une économie plutôt en forme, dit-il. Vous êtes la CPME Paris, donc il y a quand même quelques commerces dans votre giron. Vous le constatez,
Alors déjà, on a un ministre qui est positif et qui connaît un peu le monde de l'entreprise de proximité. On va lui faire au moins cela. Mais c'est vrai que ce que j'appelle le paradoxe Papin, c'est que les Français ont dépensé moins en 2025 sur leur budget global Noël, puisque en 2020, on était à 603 euros, on est à 470 euros sur le budget global.
Le global,
on est à 400 euros, vous voyez qu'on a dégringolé. En revanche, ils ont maintenu ce que j'appelle le budget repas, le budget frigo, qui est à 155 euros.
Il donne du détail, voilà. le ministre, en l'occurrence, puisqu'il parle de l'alimentaire avec une forte hausse, un panier moyen qui est inférieur, mais d'1,80 euros à Noël 2024. Il parle aussi de beaucoup de commandes pour le nouvel an. Est-ce que ça va mieux ou est-ce que les Français... En fait, je veux savoir si les Français ont dépensé plus, est-ce qu'ils ont acheté plus ou est-ce que c'était
plus cher.
Écoutez,
la première préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Ils ont acheté différemment, ils n'ont pas acheté plus puisque le panier moyen, il est passé de 603 euros en 2020 à 470 euros. Il était à 495 euros en 2024, il est donc à 460. En revanche, ils ont réorienté, ils ont sauvegarder le budget repas, c'est-à-dire le foie gras, les fruits, et ils ont renié sur le budget cadeau. Donc ceux qui ont gagné de l'argent aujourd'hui, c'est bien entendu l'ensemble de la grande distribution, parce que les chiffres des commerçants indépendants, vous pouvez pas les avoir aujourd'hui.
Non, pas encore.
Vous les aurez fin janvier.
Là, on parle des grandes surfaces en réalité.
La grande distribution.
Sur lequel on est positif.
Mais c'est positif d'avoir maintenu, parce que ça reste quand même un signe de dynamisme dans le commerce de proximité. Dans l'ensemble, ça veut dire que les Français ne sont pas restreints en matière de budget frigo.
Et puis un autre repas qu'on attend et dont on va parler d'ailleurs dans un instant, c'est le repas du 31 au soir.
Oui, parce que c'est une partie non négligeable.
Et j'espère qu'il va permettre au commerce de bouche et pas que aux grandes surfaces d'y gagner un petit peu. Merci beaucoup Bernard Cohen.
Merci Mathieu.
Vous êtes président de la CPME Paris et auteur de L'avenir appartient aux PME. C'est chez Duno. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'RMC ce matin. Bonjour Bérangère Bocquillon.
Bonjour Mathieu.
Toute la semaine, on s'intéresse avec vous aux traditions du Nouvel An. Le repas, c'était hier.
Oui.
Et ce matin?
Et aujourd'hui, on va parler de ces millions de Français qui regardent la télé pour le réveillon et notamment les vœux du président de la République.
À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, le bonus RMC. Martin, vous nous parlez ce matin de l'acteur français le plus célèbre au monde.
Mais, et je ne parle pas d'Omar Sy ou de Jean Dujardin, mais d'un acteur bien plus connu encore. Eh oui, c'est un homme qui aime le café. George Clooney, un acteur français, on l'a appris hier, l'Américain, mais aussi sa femme et ses deux enfants sont désormais des citoyens français. C'est depuis vendredi, ils viennent d'obtenir leur passeport français. George Clooney aime la France, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, il passe une grande partie de son temps dans une résidence du Var, une immense résidence du Var achetée en 2021. L'endroit le plus heureux pour nous, un endroit où nos enfants ont la chance d'avoir une vie normale, disait-il il y a encore quelques mois, un attachement à la France qui va se prolonger dans la carrière de George Clooney, puisqu'il va jouer dans un film français à la suite. Le film inspiré de la série 10%, ça sortira sur Netflix. Il aime la France, George Clooney, et c'est désormais acté. L'acteur star d'Hollywood est français.
What else? RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 sur RMC et RMC Story. Un petit parfum de fête tous les matins juste avant 8h avec Bérangère Bocquillon. Rebonjour Bérangère.
Bonjour.
Avec vous cette semaine, on parle des traditions du Nouvel An. Et aujourd'hui, le réveillon devant la télé avec des événements incontournables. Les vœux du président de la République, le feu d'artifice, Bérangère. Ce sont deux traditions que les Français regardent toujours beaucoup.
Oui, on a beau critiquer le président de la République, ses vœux restent très suivis. Le 31 à 20h, entre 9 et 12 millions de Français les regardent. C'est le général de Gaulle, vous savez, qui les a institués en 1960. Alors avec Martin Lange, on est allé demander à des Français s'ils allaient suivre les vœux du président de la République.
C'est probable. Si c'est à l'heure de l'apéro, ça peut se faire.
Ah non, terminé. C'est bon là, ça y est. C'est du pipeau.
Oh non. Dans le passé, je les regardais, mais maintenant, non, ça m'intéresse plus.
Oui, parce que ça passe à la télé, quoi, c'est tout. Je m'en tape complètement en étant très poli.
Par devoir, en principe, je ne rate pas. Il est nécessaire d'avoir les messages de notre président.
Ah, pas du tout. J'en ai rien à faire des vœux du président.
On écoute un peu. Enfin, d'une oreille, quoi.
De moins en moins. C'est un peu du vent, quoi.
Alors, on sent pas un grand enthousiasme.
C'est sûr.
L'an dernier, moins de 10 millions de Français ont regardé les vœux d'Emmanuel Macron.
Ouais, c'était l'audience la plus basse des vœux présidentiels avec ceux de François Hollande en 2014. Mais enfin, ça reste encore beaucoup. Et vous pourrez bien sûr écouter ces vœux en direct sur RMC.
Alors, autre tradition du Nouvel An, le feu d'artifice à minuit.
Eh bien, figurez-vous que ça n'est pas vraiment une tradition, Mathieu. J'ai découvert ça. Ça fait une dizaine d'années seulement qu'il y a un feu d'artifice à Paris, le 31. Il est retransmis en direct à la télévision car il a été organisé pour copier d'autres grandes capitales mondiales, pour la visibilité internationale et pour le tourisme. C'est David Proto, directeur artistique des artificiers Ruggieri, qui m'a raconté tout ça.
C'est pas ancré dans notre culture. Il y a quelques feux d'artifice en France. À Paris, le 31 décembre, c'est un petit feu d'artifice en réalité. Il dure quelques minutes. On est plus sur un bouquet pyrotechnique. Donc ça en fait un spectacle beaucoup plus intimiste, beaucoup plus graphique. En fait, c'est un feu d'artifice qui est fait pour la télé. Il n'est pas vraiment fait pour quelqu'un qui est au bout des Champs-Élysées.
Une tradition, si on le fait vraiment tous les ans, ça va le devenir une tradition.
Oui.
J'adore les feux d'artifice. Il y en a de plus en plus pour le 31. Pas forcément à minuit d'ailleurs.
Ouais, ça se développe. Hein. Il y en a à Cannes, par exemple, à minuit. Mais dans le reste des villes, c'est souvent plus tôt, vers 19h. Car pour un feu d'artifice, il faut des forces de l'ordre qui encadrent. Et ça rend cet événement difficile à organiser pour les villes. Mais vous savez, suivre le feu d'artifice à la télévision, bien au chaud, ça marche aussi, m'a expliqué Raymond Houdguéry. Rémi Houdguéry, il est sociologue et directeur de Sociovision.
Qu'on soit derrière un écran ou physiquement ensemble dans un lieu, c'est la même chose en réalité. Parce que ce qui compte, c'est l'émotion qu'on partage. Pensons aux Jeux Olympiques, ça a été une émotion collective, partagée à distance pour certains. Le plus important dans ces moments-là, c'est finalement, on dépasse la sphère individuelle et on se sent partie intégrante d'une émotion collective. Et ça, les occasions de se dire, on est tous ensemble, réunis au même moment pour éprouver la même chose, sont assez rares finalement.
Bon, et puis après, si on n'a pas envie de le regarder pile à minuit, on peut le regarder en replay, en différé.
Mais oui, bien sûr, Mathieu. Et puis ma petite surprise du jour, Mathieu, vous n'avez pas oublié, vous devez préparer pour vendredi votre pire réveillon. mais en attendant le pire réveillon des stars de l'antenne, aujourd'hui c'est Apolline de Malherbe, qui m'a raconté son réveillon le plus expéditif.
C'était ma première année aux États-Unis, correspondante de BFM TV à Washington. On est le 31 décembre et je suis mais fracassée de fatigue. J'ai trop de gosses, trop de boulot, trop froid. Et j'ai pas le courage d'attendre jusqu'à minuit. Et donc, tout d'un coup, on trouve cette idée, mais de génie. On se dit que finalement, on va faire le réveillon à l'heure française. Donc, à 18h. 18h, heure américaine. On met BFM TV. On regarde le spectacle, le feu d'artifice. Et on dit 5, 4, 3, 2, 1. Ouais, on est trop contents. On s'embrasse. On ouvre une bouteille de champagne. Et on prend un petit morceau de faux gras américain, puisqu'il n'y a pas de foie gras aux États-Unis. Et en fait, à 20h, j'étais au lit. J'étais trop contente.
Ça va arriver mercredi. Cela dit, merci. Mais Bérangère, je raconte si vous racontez aussi votre pire réveillon.
Je vais y réfléchir.
Ouais, oui, d'ici vendredi. Merci beaucoup, Bérangère Bocquillon. Les traditions du Nouvel An tous les jours avant 8h. Il est 7h58 et à la une du journal de 8h. Cet incroyable cambriolage dans une caserne de pompiers d'hier dans le Var. 140 000 euros dérobés. Et puis dans un instant, la météo avec le soleil qui s'impose au nord de la Loire et dans le sud-est. Juste après le journal. L'économie avec Manu Le Chypre. Emmanuel, le leasing social, ça a marché ou pas?
Rappelez-vous, on nous avait dit le 30 septembre, il faut se précipiter dans quelques jours.
Il y aura quelques heures.
Et bien, effectivement, ça a démarré très fort. Et puis après, plus rien, au point qu'il reste même quelques places.
Ah, à tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.